Déjà, le trépas de quelques-uns de ses ennemis venait lui rendre l'espérance. Le trésorier Forget était mort à la fin de l'autre année. Le chancelier Guillaume de Sainte-Maure venait de mourir à son tour. Le duc Jean de Normandie, héritier de France, était gravement malade, et même Philippe VI, disait-on, subissait des ennuis de santé. Peut-être les maléfices de Robert n'avaient-ils pas été totalement inopérants. Pour retourner en Flandre, Robert prit des habits de convers. Étrange frère, en vérité, que ce géant dont le capuchon dominait les foules, qui entrait d'un pas guerrier aux abbayes et demandait l'hospitalité qu'on doit aux hommes de Dieu de la même voix qu'il eût demandé sa lance à un écuyer. Dans un réfectoire de Bruges, la tête inclinée sur son écuelle, au bout de la longue table grasse et faisant mine de murmurer les prières dont il ignorait le premier mot, il écoutait le frère lecteur, installé dans une petite niche creusée à mi-hauteur du mur, lire la vie des saints. Les voûtes renvoyaient la voix monotone sur la tablée des moines, et Robert se disait « Pourquoi ne pas finir ainsi ? La paix, la profonde paix des couvents, la délivrance de tout souci, le renoncement, le gîte assuré, les heures régulières, la fin de l'errance. » Quel homme, fût-ce le plus turbulent, le plus ambitieux, le plus cruel, n'a pas connu cette tentation du repos, de la démission ? À quoi bon tant de lutte, tant d'entreprises vaines, puisque tout doit s'achever dans la poudre du tombeau ? Robert y songeait de la même façon que 5 ans plus tôt, il songeait à se retirer avec sa femme et ses fils dans une tranquille vie de seigneur terrien. Mais ce sont là pensées qui ne peuvent durer. Et chez Robert, elles se présentaient toujours trop tard, à l'instant même où quelque événement allait le rejeter dans sa vocation véritable, qui était l'action et le combat. 2 jours plus tard, à Gand, Robert d'Artois rencontrait Jacob van Artevelde. L'homme était sensiblement du même âge que Robert, l'approche de la cinquantaine. Il avait le masque carré, la panse forte et les reins bien plantés sur les jambes. Il était fort mangeur et buveur solide, sans que jamais la tête lui tournât. En sa jeunesse, il avait fait partie de la suite de Charles de Valois à Rhodes et accompli plusieurs autres voyages. Il possédait son Europe. Ce brasseur de miel, ce grand négociant Andras, était en seconde noce, marié à une femme noble. Hautain, imaginatif et dur, il avait pris grande autorité d'abord sur la ville de Gand, qu'il dominait complètement, puis sur les principales communes flamandes. Lorsque les foulons, les drapiers, les brasseurs, qui constituaient la vraie richesse du pays, voulaient faire des représentations au comte ou au roi de France, c'était à Jacob van Artevelde qu'ils s'adressaient afin qu'il allât porter leurs vœux ou leurs reproches d'une voix forte et d'une parole claire. Il n'avait aucun titre. Il était messire van Artevelde, devant qui chacun s'inclinait. Les ennemis ne lui manquaient pas et il ne se déplaçait qu'accompagné de 60 valets armés qui l'attendaient aux portes des maisons où il dînait. Artevelde et Robert d'Artois se jugèrent, se jaugèrent du premier coup d'œil, pour gens de même race, courageux de corps, habiles, lucides, animés du goût de dominer. Que Robert fût un proscrit gênait peu Artevelde, au contraire. Ce pouvait être aubaine pour le Gantois que la rencontre de cet ancien grand seigneur, ce beau-frère de roi naguère tout puissant et maintenant hostile à la France. Et pour Robert, ce bourgeois ambitieux apparaissait 20 fois plus estimable que les nobliaux qui lui interdisaient leur manoir. Artevelde était hostile au comte de Flandre, donc à la France, et puissant parmi ses concitoyens. C'était là l'important. « Nous n'aimons pas Louis de Nevers qui n'est demeuré notre comte que parce qu'au Mont-Cassel le roi a massacré nos milices. » « J'y étais, dit Robert. Le comte ne vient parmi nous que pour nous demander l'argent qu'il dépense à Paris. Il ne comprend rien en représentation, il n'y veut rien comprendre. Il ne commande rien de son chef et ne fait que transmettre les mauvaises ordonnances du roi de France. On vient de nous obliger à chasser les marchands anglais. Nous ne sommes point opposés, nous, aux marchands anglais. Nous nous moquons bien des différends que le roi a trouvés et peut avoir avec son cousin d'Angleterre au sujet de la croisade ou du trône d'Écosse. » À présent, l'Angleterre, par représailles, nous menace de couper les livraisons de Sélène. Ah ! Ces jours-là, nos foulons et tisserands ici dans toutes les Flandres n'auront plus qu'à briser leur métier et fermer leurs échoppes. Mais ce jour-là aussi, monseigneur, ils reprendront leurs couteaux et Hainaut, Brabant, Hollande, Zélande seront avec nous, car ces pays ne tiennent à la France que par les mariages de leurs princes, mais non par le cœur de leur peuple ni par son ventre. On ne règne pas longtemps sur des gens qu'on affame. Robert écoutait Artevelde avec grande attention. Enfin un homme qui parlait clair, qui savait son sujet et qui semblait appuyé sur une force véritable. « Pourquoi, si vous devez vous révolter encore, dit Robert, ne pas vous allier franchement au roi d'Angleterre ? Et pourquoi ne pas prendre langue avec l'empereur d'Allemagne, qui est ennemi du pape, donc ennemi de la France, qui tient le pape dans sa main ? Vos milices sont courageuses, mais limitées à de petites actions, parce qu'il leur manque des troupes à cheval. Faites-les soutenir d'un corps de chevaliers anglais, d'un corps de chevaliers allemands, et avancez-vous en France par la route d'Artois. Là, je gage de vous gagner encore plus de monde. » Il voyait déjà la coalition formée et lui-même chevauchant à la tête d'une armée. « Croyez bien, monseigneur, que j'y ai souvent pensé, » répondit Hartevelt. « Et qu'il serait aisé de parler avec le roi d'Angleterre et même avec l'empereur Louis de Bavière si nos bourgeois y étaient prêts. Les hommes des communes haïssent le comte Louis, mais c'est néanmoins vers le roi de France qu'ils se tournent pour en obtenir justice. Ils ont fait serment au roi de France. Même quand ils prennent les armes contre lui, ils demeurent leur maître. En outre, c'est la manœuvre habile de la part de la France. On a contraint nos villes à reconnaître qu'elles verseraient 2 millions de florins au pape si elles se révoltaient contre leur suzerain et ceux-ci sous menace d'excommunication si nous ne payons pas. Les familles redoutent d'être privées de prêtres et de messes. C'est-à-dire qu'on a obligé le pape à vous menacer d'excommunication ou de ruine afin que vos communes se tiennent tranquilles durant la croisade. Mais qui pourra vous forcer à payer quand l'Est de France sera en Égypte ?»« Vous savez comment sont les petites gens, » dit Hartevelt. « Ils ne connaissent leur force que lorsque le moment d'en user est passé. » Robert vida la grande chope de bière qui était devant lui. Il prenait goût à la bière, décidément. Il resta un moment silencieux, les yeux fixés sur la boiserie. La maison de Jacob van Hartevelt était belle et confortable. Les cuivres, les étains bien astiqués, les meubles de chêne y luisaient dans l'ombre. « C'est donc l'allégeance au roi de France qui vous empêche de contracter des alliances et de reprendre les armes. »« C'est cela même, » dit Hartevelt. Robert avait l'imagination vive. Depuis 3 ans et demi, il trompait sa fin de vengeance avec de petites pâtures, envoûtes, sortilèges, tueurs à gages qui n'arrivaient pas jusqu'aux victimes désignées. Soudain, son espérance retrouvait d'autres dimensions. Une grande idée germait, enfin digne de lui. « Et si le roi d'Angleterre devenait le roi de France ?» demanda-t-il. Hartevelt regarda Robert d'Artois avec incrédulité, comme s'il doutait d'avoir bien entendu. « Je vous dis, messire, si le roi d'Angleterre était le roi de France, s'il revendiquait la couronne, s'il faisait établir ses droits, s'il prouvait que le royaume de France est sien, s'il se présentait comme votre suzerain légitime. Monseigneur, c'est un songe que vous bâtissez là. « Un songe !» s'écria Robert. « Mais cette querelle-là n'a jamais été jugée, ni la cause perdue. Quand mon cousin Valois a été porté au trône, quand je l'ai porté au trône, et vous voyez la grâce qu'il m'en garde, les députés d'Angleterre sont venus faire valoir les droits de la reine Isabelle et de son fils Édouard, il n'y a pas si longtemps. Il y a moins de 7 ans. On ne les a pas entendus parce qu'on ne voulait pas les entendre et que je les ai fait reconduire à leur vaisseau. Vous appelez Philippe le roi trouvé. Que n'en trouveriez-vous un autre? Et que penseriez-vous si l'on reprenait maintenant l'affaire et qu'on vint dire à vos foulons, vos tisserands, vos marchands, vos communaux, votre comte ne tient pas ses droits de bonne main. Son hommage, il ne le devait point au roi de France. Votre suzerain, c'est celui de Londres. » Un songe en vérité, mais qui séduisait Jacob van Tartevelde. La laine qui arrivait du nord-ouest par la mer, les étoffes, rudes ou précieuses, qui repartaient par le même chemin, le trafic des ports, tout incitait la Flandre à tourner ses regards vers le royaume anglais. Du côté de Paris, rien ne venait, sinon des collecteurs d'impôts. Mais croyez-vous, monseigneur, en bonne raison, qu'aucune personne au monde puisse être convaincue de ce que vous dites et puisse consentir à pareille entreprise?
Une seule, messire. Il suffit qu'une seule personne soit convaincue. Le roi d'Angleterre lui-même.
Quelques jours plus tard, à Anvers, muni d'un passeport de marchand drapier et suivi de gilets de nel qui portaient pour la forme quelques zones d'étoffe, Monseigneur Robert d'Artois s'embarquait pour Londres.